La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. De plus en plus de recherches nous montrent les effets de la musique sur notre cerveau et l'éducation musicale possède aujourd'hui des outils scientifiques pour comprendre ses bienfaits. Avec mes invités, nous allons explorer ces différentes facettes pour voir d'abord quel rapport nous entretenons avec la musique et quelles sont les vertus qu'on lui prête, les pouvoirs de la musique depuis l'oreille musicale jusqu'au cerveau du bébé, en passant par les troubles de la perception. Nous allons donc discuter ensemble de toutes ces questions avec vos messages et vos témoignages sur franceinter.fr. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
Astronomie aujourd'hui à la une de la science avec des geysers, ceux d'Europe, le satellite de Jupiter.
Oui Mathieu, et c'est une confirmation importante qui est publiée cette semaine. De l'eau sous forme de vapeur s'échappe de cette petite lune. Et bien sûr, les scientifiques rêvent d'y trouver la vie. On en discute avec le planétologue Gabriel Toby.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette tête au carré préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Hannibal Wachi.
La tête au carré, les mercredis psy et philo. Avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Les pouvoirs de la musique, ce sera donc le dossier de l'émission dans un instant avec mes invités que je salue, la neuroscientifique Isabelle Peretz et le musicologue David Christoffel. Bonjour à tous
bonjour,
les deux.
Bonjour.
Bienvenue Isabelle Peretz. Apparemment, il n'est jamais trop tard pour profiter des bienfaits de la musique. À tout âge, on peut optimiser son cerveau.
Avec certaines limites, certainement, oui. Donc oui, on peut effectivement apprendre la musique tardivement. C'est ce que les études scientifiques montrent.
Oui.
Et avec tous les bénéfices pour l'attention, la concentration, la mémoire. Mais quand même, il faut mettre un bémol, il vaut mieux l'apprendre quand
voilà.
On est jeune.
Ouais. Il y a plus de facilité, le cerveau est plus plastique à ce
moment-là. Clairement,
oui,
ouais. Il y a une fenêtre dans laquelle on acquiert toutes ces facultés beaucoup plus aisément. Mais elle est longue, cette fenêtre. Quand
absolument.
Même.
David Christoffel, vous vous êtes interrogé sur les risques à vouloir trop médicaliser finalement le rapport à la musique. C'est une dérive qu'on observe depuis assez longtemps d'ailleurs apparemment dans l'histoire.
C'est ça. À force d'en vouloir faire une espèce d'agent thérapeutique, on oublie qu'on peut avoir quelques plaisirs plus esthétiques ouais. Avec la musique, et donc plus complexe, et donc peut-être pas toujours si bon que ça.
Ouais, on va se balader avec vous donc dans l'histoire pour justement voir de quelle façon la musique a pu intervenir, et puis ce sera une discussion croisée avec les auditeurs qui nous rejoignent également, les messages et les questions sur le site de l'émission franceinter.fr. Les palaches d'eau de la Lune, Europe aujourd'hui, donc à la une de la science, et c'est une confirmation importante qui vient d'être publiée concernant la petite lune glacée de Jupiter.
La grande prouesse de Galiléo, c'est d'avoir percé une partie des mystères d'Europe, l'une des lunes de Jupiter. Une carapace de glace de 100 km d'épaisseur, quadrillée de craquelures, avec des plaques qui glissent, dérivent les unes par rapport aux autres. Ces icebergs géants flottent en fait sur des océans d'eau salée.
Et enfouis dans les données de la sonde Galileo, qui date donc de 1997, les scientifiques de la NASA ont trouvé une nouvelle preuve que des geysers de vapeur d'eau s'échappent de la surface du satellite. Et c'est une information importante qui renforce les attentes concernant les missions à venir. On en parle avec notre invité, Axel.
Oui Mathieu, on est avec Gabriel Toby, qui se trouve dans les locaux de France Bleu Loire-Océan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur pour le CNRS au laboratoire Planétologie et Géodynamique de Nantes. Alors c'est la troisième fois que des observations différentes suggèrent que des geysers de vapeur s'échappent d'Europe. Est-ce que trois, c'est assez pour en être certain maintenant ?
On peut dire que ça commence à être assez certain. Donc chaque observation individuellement, elles étaient quand même assez toujours à la limite de la détection. Le fait qu'on observe trois fois successivement ce type de panache sur Europe rend la détection de plus en plus certaine. Donc on peut se dire qu'on est quasiment sûr maintenant qu'il y a des éruptions de vapeur d'eau sur Europe.
Alors ce qui est amusant, c'est que cette confirmation, elle était dans les cartons de la NASA depuis 20 ans, un peu plus. Pourquoi est-ce qu'on ne l'avait pas vue à l'époque de Galiléo ?
Alors effectivement, c'est basé sur des données qui ont été récoltées par la sonde Galiléo, qui était autour de Jupiter de 97 à à peu près 2003. Et à chaque survol d'Europe, elle a pris des données, et notamment elle a mesuré le champ magnétique. Et c'est à partir de ces données sur le champ magnétique, justement, qu'on a pu déterminer qu'il y avait un océan sous la croûte de glace d'Europe. Donc déjà, ces données magnétiques étaient très importantes de ce point de vue-là. Et il y avait des petites anomalies dans ces données magnétiques que personne n'avait essayé de vraiment de regarder. Donc ce qu'ont essayé de faire ces chercheurs américains en réanalysant les données, c'est essayer de comprendre est-ce que ces petites anomalies, on pouvait les interpréter en termes de panache de vapeur d'eau. Et justement, ce qu'ils ont montré, c'est en modélisant ce phénomène-là, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient, expliquer une grande partie du signal qui était observé. Donc on peut dire que c'est un résultat qui a été motivé par la détection de panaches à partir d'images de télescope Hubble. Mm-hmm. Si on n'avait pas détecté ces images, peut-être que personne n'aurait réinterprété ces données. Mais en réinterprétant les données, ils ont pu confirmer justement l'existence de ces panaches.
Donc il y a eu des images et ensuite modélisation, hein. Ça a été le processus, hein.
Alors le processus, c'est quand il y a eu des images, une première image qui a été acquise par le télescope Hubble, c'était en 2013. Et ensuite, il y a eu une confirmation avec aussi le télescope Hubble, mais une autre technique, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais une autre technique qui a permis également d'observer encore une fois l'existence de panaches au niveau d'une zone particulière sur Europe, plutôt vers l'hémisphère sud. Et ensuite, en réanalysant ces données de champ magnétique, ils ont pu modéliser également l'effet qu'aurait un panache sur ce champ magnétique et montrer que ça pouvait expliquer les données qui avait été acquise par la sonde Galileo.
Alors vous l'avez dit, Gabriel Toby, on savait depuis longtemps déjà qu'il y avait sous la glace un océan d'eau salée. Pourquoi est-ce que le fait qu'il y ait ces vapeurs d'eau qui s'échappent, ces panaches, est important ?
Alors c'est important déjà d'une part parce que ça nous prouve qu'Europe est active à l'heure actuelle, ce qui n'était pas complètement certain, même si on avait beaucoup d'images à la surface qui nous montraient des fortes activités, on ne savait pas si à l'heure actuelle on avait des éruptions potentielles. Et le fait qu'on ait des éruptions, ça nous donne une opportunité unique d'aller analyser directement de la matière qui vient de l'intérieur d'Europe. Et c'est grâce à ce type de mesures qu'on pourra vraiment déterminer quelle est la composition de l'océan d'Europe. Pour le moment, on pense juste qu'il y a un océan sous la croûte de glace, on pense qu'il y a du sel, mais on ne sait pas du tout de quoi il est constitué, quel type de molécules, quelle chimie peut se produire à l'intérieur de cet océan. Grâce à ces éruptions, on aura un outil potentiel pour aller étudier directement la composition de l'intérieur d'Europe.
On est sûr que l'eau qui s'échappe est celle qui provient des océans à l'intérieur ?
Alors, elle vient peut-être pas directement de l'océan, mais on pense que c'est quand même probablement connecté. Donc peut-être c'est un peu compliqué parce qu'il y a une couche de glace, donc on ne sait pas exactement quel chemin l'eau a pu prendre à travers la couche de glace. Mais on pense qu'il y a quand même un lien entre ces jets de vapeur et la composition de l'océan qu'on a sous la croûte de glace.
Bah justement, Gabriel Toby, quand vous nous dites qu'il y a un océan sous la croûte de glace d'Europe, ça veut dire quoi exactement ? On a des indications là-dessus sur l'étendue de l'eau, son épaisseur ? Qu'est-ce qu'on en sait exactement ?
Alors, on n'a pas des précisions, on sait, d'après les données du champ magnétique, encore une fois, c'est grâce au champ magnétique, qu'on a une couche d'eau salée, à peu près entre 10 et 40 km sous la croûte de glace. On ne sait pas, donc vous voyez, entre 10 et 40, c'est encore une assez grande incertitude. Donc on est quasiment certain maintenant qu'il y a une couche d'eau liquide. Par contre, on ne savait pas jusqu'à maintenant si elle communiquait avec la surface. Le fait qu'on ait des éruptions, ça nous suggère que c'est quand même que potentiellement on a des communications entre cet océan et la surface à l'heure actuelle, ce qui est déjà une très grande avancée. Et par contre, on ne sait pas du tout la composition. Donc le volume, il est estimé à peu près, c'est une épaisseur d'à peu près entre 80 et 100 km d'épaisseur. Vous voyez, c'est un océan très très épais. Ouais. Et si on le compare à la Terre, ça fait à peu près 20 fois le volume de l'océan terrestre.
On l'a dit au tout début, cette confirmation est importante pour les missions à venir autour d'Europe. Qu'est-ce qu'elles vont essayer de faire, ces sondes, avec ces vapeurs d'eau ? Elles vont les attraper en passant ?
Alors, elles vont essayer de les analyser. Donc, il y a des instruments qui sont prévus sur... Donc, il y a deux sondes qui vont aller survoler Europe dans le futur. Donc, il y a une sonde américaine qui s'appelle Europa Clipper, qui est dédiée à l'étude d'Europe. Et puis, il y a une autre sonde européenne qui s'appelle JUICE, donc Jupiter Icy Moon Explorer, qui, elle, va étudier l'ensemble des lunes de Jupiter et le système de Jupiter, et va survoler deux fois Europe. Donc, lors des survols, au bord de ces sondes, il y a plein d'instruments, donc on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais ceux qui vont donner des informations sur les vapeurs d'eau, ce sont des spectromètres de masse qui nous permettent d'analyser directement la composition des jets qui viennent de l'intérieur. Donc on a aussi d'autres types d'instruments comme des spectromètres UV qui vont donner aussi des informations sur la position de ces panaches et nous permettre de détecter où ils se trouvent exactement avant de planifier des survols précis. Et puis il y a des instruments aussi qui vont nous permettre d'analyser les grains de glace qui peuvent être éjectés justement avec cette vapeur d'eau.
Est-ce que ça veut dire que s'il y a de la vie dans ces eaux, on pourrait en avoir la confirmation assez rapidement alors ?
Disons qu'on aura des indices. Donc, à partir de l'analyse des vapeurs qui viennent de l'intérieur, on pourra voir déjà si on a d'autres molécules un peu plus complexes que juste de la vapeur d'eau. Donc, la vapeur d'eau, c'est quand même très basique comme molécule. Donc, on va pouvoir détecter si potentiellement on a des molécules organique, donc composée de carbone et d'autres éléments plus ou moins complexes. Par contre, on ne pourra pas détecter directement s'il y a de la vie, parce que ça demanderait des analyses qui ne sont pas possibles depuis l'orbite. Mais dans tous les cas, ça va nous donner des nouveaux indices, et ça va nous permettre de converger plus ou moins rapidement vers ça va donner de nouveaux arguments pour déterminer si c'est possible ou non d'avoir eu de la vie qui s'est développée à l'intérieur d'Europe.
Il y a une autre lune dans le système solaire qui ressemble à Europe, c'est Encelade autour de Saturne, qui a aussi de la glace et des geysers. Pourquoi les missions se dirigent plus vers Europe que vers Encelade ?
Alors déjà, elles se dirigent vers Europe parce que ça fait déjà, depuis les missions Galileo qui sont terminées à la fin des années 2000, début des années 2000, qu'il y a des projets pour retourner vers Europe. Donc il a fallu très longtemps avant de convaincre les agences spatiales de retourner vers Europe. Donc finalement, ça s'est fait. Et on a décidé d'aller vers Europe parce que c'était une très forte attente de la communauté scientifique. Encelade, on vient tout juste de découvrir on a découvert un peu plus tard justement l'activité d'Encelade et le fait que Encelade a un fort potentiel. Donc on peut juste espérer qu'il y aura une prochaine vague d'exploration vers Encelade, mais ça ne va pas être encore tout de suite. Il faut pour ça convaincre les agences spatiales et démontrer qu'il y a un intérêt scientifique pour retourner sur ce type d'objet.
Mais justement, vous l'avez dit, les agences spatiales européennes et américaines veulent aller vers Europe. Est-ce qu'il y a une course à Europe ? Est-ce qu'elles se font un petit peu la bourre ? Est-ce qu'elles se tirent la bourre pour arriver les premières ?
Alors, initialement, c'était un projet qui était commun entre les agences, la NASA et l'ESA. Donc, au final, ça se fait de manière un peu dispersée, mais on espère qu'on va reconverger et avoir des synergies, justement, entre les deux missions, à la fois la mission américaine et la mission européenne. Elles arriveront probablement pas exactement au même moment, mais on va avoir des informations complémentaires avec ces deux types de missions.
Merci beaucoup, Gabriel Tobi. En tout cas, si vous repérez des traces de vie sur Europe, vous nous appelez, parce qu'avec Axel, on aimerait bien être à l'antenne ce jour-là, figurez-vous, pour l'annoncer à nos auditeurs. Merci.
Il faudra attendre au moins 2030.
Ben, c'est ça le problème, voilà. Voilà, et ça, c'est l'incertitude. Merci beaucoup, en tout cas. Merci aux équipes de France Bleu Loire-Océan. Et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les lits des chimpanzés plus hygiéniques que ceux des humains. C'est une découverte étonnante qui nous vient d'une équipe de l'Université de Caroline du Nord. Alors que 35% des bactéries présentes dans nos lits proviennent de notre corps, les scientifiques expliquent n'avoir dénombré quasiment aucune bactérie fécale, orale ou épidermique dans les niches de ces grands singes, que l'on retrouve habituellement d'ailleurs dans les arbres de Tanzanie. Pour l'auteur principal de l'étude, la découverte permet de remettre en question le rapport de l'homme avec son environnement et son hygiène. Toujours dans le domaine de l'environnement, les traînées de condensation blanche laissées par les avions dans le ciel accentuent le réchauffement climatique davantage que le carburant brûlé pour faire tourner les réacteurs. Le physicien Bernd Kircher, auteur de cette synthèse parue dans Nature, explique que ces traînées, qui sont de simples condensations de l'eau en altitude au passage de l'avion, entraînent la formation de cirrus, des nuages qui accentuent les températures de la surface planétaire. Et puis pour finir, un robot jogger plutôt habile, la société américaine Boston Dynamics a publié jeudi dernier une nouvelle vidéo de son robot humanoïde Atlas, toujours plus surprenant. On peut y voir l'athlète de ferraille faire son footing dans les bois et même sauter un obstacle les pieds joints sans jamais perdre l'équilibre. Vous pouvez retrouver la vidéo vue près de 6 millions de fois depuis sa publication sur la page Facebook de la Tête au Carré. Les pouvoirs de la musique, c'est le dossier dans un instant.
Je m'élance et je danse en silence, si langoureusement qu'on me pense bien plus longue et plus lente qu'une transe à mille temps. Souple, je suis souple. Quand je flanche, je me planque et je mange une mangue. du ventre éloquent.
Langue, cet extrait de son dernier album. Vous avez reconnu la voix de Camille.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et nous parlons des pouvoirs de la musique. C'est notre discussion cet après-midi pour comprendre quelles sont les promesses d'abord qui découlent de notre rapport avec la musique au moment où de nombreux discours circulent sur ses bienfaits, sur notre cerveau. Isabelle Peretz, vous êtes avec nous. Vous arrivez du Québec. Vous êtes titulaire d'une chaire de recherche en neurocognition de la musique à l'Université de Montréal. Et donc, vous publiez ce livre « Apprendre la musique nouvelle des neurosciences ». C'est publié chez Odile Jacob. Et puis, on a invité un camarade de Radio France, puisque David Christoffel, vous avez longtemps travaillé dans cette maison. Vous êtes musicologue, producteur de radio, aujourd'hui à la Radio-Télévision Suisse, et vous êtes l'auteur d'un ouvrage « La musique vous veut du bien » aux presses universitaires de France. Discussion croisée avec également les questions des auditeurs qui nous rejoignent donc sur franceinter.fr et sur le mot-clé « l'attaque ». Isabelle Peretz, dans votre livre, vous exposez comment la musique modifie notre cerveau en abordant par exemple les bases innées de la musicalité, en évoquant les différences individuelles, les compétences ou l'apprentissage. Les études sur la musique, elles sont nombreuses aujourd'hui. On trouve beaucoup de littérature scientifique.
Oh, c'est exponentiel en fait. Il faudra sûrement réécrire une autre version dans 5 ans parce que ça, l'engouement non seulement de la population mais surtout des chercheurs et l'expertise des chercheurs maintenant, on est très nombreux. Il y a 30 ans, on était une poignée, fait que les études s'amoncellent. C'est vraiment extraordinaire. Ouais. Donc, et dans ce livre, ce que j'ai essayé, c'est vraiment de donner le point, de faire le point sur différentes questions qu'on aborde, dont certaines on abordera, autour de faits scientifiques. Donc, ce que j'essaye surtout, c'est de départager ce qui est rumeur, si vous voulez, fausse rumeur, de ce qui est la science fondée, objective, documentée.
Trier le bon grain de livret pour nous.
Hein. Et c'est mon rôle de le trier pour vous.
Voilà, et c'est bien. Quand les scientifiques font cette démarche, nous, on aime bien, parce qu'en général, ils font l'effort, justement, d'expliquer au plus grand nombre des publications qui sont parfois un petit peu complexes dans ce domaine et dont les méthodes sont pas toujours d'ailleurs forcément égales.
C'est ça. Donc c'est vraiment ça le but de ce livre très court d'ailleurs qui synthétise, si vous voulez, l'état de la question autour d'un fait remarquable.
Disons. Absolument. Livre lu par notre musicologue David Christoffel, parce que non seulement vous écrivez des livres, David Christoffel, mais vous avez également un intérêt pour la littérature scientifique dans ce domaine de la musique. Ça vous a toujours intéressé, ce lien science et art d'ailleurs, hein ?
Absolument, parce que c'est une manière de re-questionner qu'est-ce qu'il se passe quand on est au contact d'une chose artistique, et donc aussi d'élargir ce qu'on peut en voir. Et quand vous dites de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, c'est vrai que la frontière est floue parfois quand on parle de musique et que ce flou est pas anodin complètement non plus parce que si il doit y avoir des pouvoirs insoupçonnés de la musique, ça veut dire que certains de ces pouvoirs, s'ils ne sont pas réels, sont fantasmés, mais ces fantasmes vont quand même conduire ce que la science va faire pour essayer de l'aborder et par conséquent les méthodes scientifiques pour essayer d'éclaircir ses bienfaits sont quand même travaillées par les fantasmes des mélomanes.
Mais c'est d'ailleurs votre démarche aussi dans cet ouvrage, c'est de voir par rapport à toutes les rumeurs qui ont émaillé les siècles, ce qui pouvait être vraiment valable ou pas. Vous commencez en disant « Le violon calme assez bien les personnes atteintes de kleptomanie, tandis que le piston est indispensable aux malheureux que tourmente le délire des grandeurs. » Ça, ce sont des exemples
Des exemples de discours qui fantasmaient effectivement une répartition scientifique des effets. Alors là, l'exemple que vous citez, c'est par instrument, mais on peut aussi citer Kircher qui, au XVIIe siècle, classait toutes les tarentelles, donc toute juste les dents, c'est en face, mettez toutes les tarentules que c'était censé pouvoir soigner. Donc il y a des jeux typologiques comme ça qui sont toujours, oui, forcément de l'ordre du fantasme, mais qui sont quand même portés par une volonté certes scientifique.
Voilà, époque, beaucoup d'exemples donc de lyre et de flûte guérisseuse hein, dans les compositions. On va en parler avec vous dans un instant. Isabelle Perret, c'est vrai qu'on fait dire beaucoup de choses au cerveau aussi aujourd'hui. Il faut faire attention dans ce domaine des neurosciences. Hein.
Oui,
on attend beaucoup de notre siège de la pensée.
C'est pas ça rend les choses concrètes en fait, mais ça change pas tellement de qu'est-ce qu'on pensait il y a 200 ans du pouvoir de la magie. C'est pas parce que ça s'ancre dans le cerveau que c'est vrai. Et c'est de là de nouveau notre rôle d'expliquer qu'est-ce qui peut effectivement tenir la route ou pas.
Ouais. Vous dirigez depuis 2005, c'est ça, le laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique et le son. Il s'appelle BRAHMS.
Hein. Sans H.
Voilà, mais quand même. Hein.
Il y a évidemment ce
clin d'œil que vous avez fondé donc ce laboratoire depuis donc maintenant de 2005. Hein, c'est ça. Qu'est-ce que vous y faites alors exactement?
En fait, c'est un regroupement d'une masse critique de chercheurs, de scientifiques dans le domaine de cerveau et musique, si vous voulez, donc neurosciences de la musique, qui se trouve être à Montréal. Dans le monde, vous n'avez pas une telle concentration. Alors, disons que j'ai eu ce fantasme qui est devenu réalité de créer un centre. Et de nouveau, c'est un peu, si vous voulez, le fait que le terrain était prêt, les gens, on a eu un engouement, là, on a eu énormément d'argent, de support.
C'est chouette, ça, vous avez de la chance.
Oui, non, pas nécessairement. C'est ce que j'aimerais dire. Je pense que les gens sont très à l'affût des nouvelles, si vous voulez, des découvertes ayant trait à la musique. Et le cerveau, évidemment, ça, c'est à cause de l'ancrage. Mais donc, ça rencontrait un désir vraiment de rejoindre art et science, de faire cette interaction entre deux mondes qui se parlent peu. Oui. Donc, c'est original, mais c'était une attente.
Ouais. Et c'est là qu'on voit David Christoffel, à quel point d'ailleurs tous ces travaux scientifiques intéressent le public. Hein, et c'est là qu'on voit aussi le pouvoir de la musique de façon émotionnelle aussi hein, sur notre organisme et notre pensée. Parce que voilà, on regarde ce qui se passe dans les laboratoires.
Et en même temps, ça raconte des choses sur nous. Est-ce qu'on cherche de la musique qu'elle nous télécommande émotionnellement, véritablement? Moi, c'est toute la question qui m'intéresse et presque m'inquiète. Parce que s'il s'agit d'aller chercher dans le répertoire musical une espèce de posologie où pour avoir telle émotion il faut actionner sur tel compositeur ou tel style musical qui est parfois justement le fantasme que ça laisse circuler. Là forcément il y a une espèce de jeu de dupe où la relation qu'on entretient avec la musique elle est plus tellement d'ordre esthétique.
Ça fait penser à l'effet Mozart précisément, ce que vous dites, hein, une sorte de magie justement sur le fait d'écouter par exemple de la musique, celle de Mozart et ses sonates pouvant améliorer nos capacités cognitives.
Je crois que Isabelle Peretz a concouru à relativiser justement terriblement cette.
Vous voulez que j'en parle?
Oui, vous pouvez en parler tous les deux, parce que vous citez cet exemple.
Je vous laisse peut-être commencer.
Alors Isabelle Peretz, l'effet Mozart.
Oui, en fait, l'effet Mozart, je l'aborde dans le livre aussi parce que c'est devenu comme une légende urbaine en Amérique du Nord où on donne Mozart aux bébés naissants en Californie. C'était le cadeau de naissance à tous les bébés. Oui. Mais ici, on sourit maintenant, mais Tomatis a tout de même fait Mozart filtré. Je sais, c'est, vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, mais
Alfred Tomatis.
Il a fait fortune à filtrer du Mozart et à le présenter. Les gens y allaient comme en psychanalyse, payaient très cher. Et là, on a une illustration de l'effet placebo et de l'exagération, de l'exploitation, si vous voulez. Ça n'a jamais été prouvé.
Ouais.
Alors peut-être qu'il y avait quelque chose. Mais alors l'effet Mozart, non, c'est sorti dans Nature, je pense, en 93. C'est une étude qui montrait que d'écouter 10 ou 15 minutes de Mozart par rapport au silence, non, c'était la musique aussi de relaxation, enfin il y avait plusieurs groupes, améliorait le quotient intellectuel de quelques points, surtout un aspect de spatial, de résolution de problèmes. Et ça a eu une répercussion majeure, c'est-à-dire que les gens attendaient ce genre de résultats pour y croire, pour se dire « mais voilà, c'est prouvé ».
Bien sûr.
Alors évidemment, il y a eu beaucoup de recherches entre-temps, et puis je vais peut-être pas passer tous les détails, j'ai travaillé, parce que celui qui a publié cette étude était prêt à me payer la recherche dans mon laboratoire pendant plusieurs années. Alors j'ai dit très bien, mais je veux reproduire.
Mais oui,
et on n'est jamais arrivé à reproduire.
Voilà, ça c'est la vraie démarche scientifique. Hein.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on essaie de reproduire pour pouvoir valider ou pas. Et ça n'a pas fonctionné.
Non. Et on n'était pas les seuls. Donc, ouais. Mais le problème des résultats négatifs, c'est que ça ne se publie pas.
Oui, ça c'est un problème.
Voilà. Ouais. Alors on s'est mis à plusieurs laboratoires à réunir toutes nos données. Et puis je pense le titre a tout de même joué, on l'a appelé le Requiem de l'effet Mozart.
Ouais.
Et c'est sorti dans Nature pour montrer que c'était un effet extrêmement fragile et qu'il y avait que ça, un laboratoire en parallèle qui avait été. Mais en fait, ça n'a eu aucun écho.
C'est
zéro.
Ça. On a voulu et on pense toujours que Mozart, avant que ça s'est fait sinon.
Ouais. Oui. Alors les gens continuent à me dire, tu sais, j'écoute quand j'écris ma demande de subvention, j'écoute les sonates de Mozart. Je dis, ça nuit pas. Hein. Donc pas de problème.
C'est ça. Comme si le génie de Mozart pouvait aussi
se diffuser en nous. Ah oui, c'est ça. C'est la magie. Voilà.
Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais. David Christoffel, ça c'est un exemple qui est extraordinaire quand même. C'est-à-dire qu'on veut y croire. Hein.
Voilà.
Et alors l'effet Mozart, c'est aussi un best-seller de Don Campbell qui justement continue à dire qu'il faut y croire pour que ça marche en quelque sorte, donc relativise la chose en même temps que lui s'émerveille de voir que des Japonais l'ont utilisé dans des brasseries pour avoir le meilleur saké ou que des monastères bretons l'avaient utilisé pour améliorer la fertilité des vaches. Et en fait, toute cette collection d'anecdotes montre bien qu'on a envie d'ironiser avec ce genre de choses. Et peut-être que notre envie d'ironie, elle trahit aussi un malaise, à savoir pourquoi Mozart et pas un autre, puisque dans le même livre, on trouve un rapport aux catégories musicales qui sont finalement très peu consistantes, où on en arrive à dire que pour se calmer, on peut écouter un mouvement lent de musique baroque, mais que pour s'exciter, il faudra écouter de la musique romantique. Oui. Alors qu'évidemment, toute la musique romantique n'a pas le même effet, que toute la musique baroque n'a pas le même effet.
Là, je peux intervenir peut-être, parce qu'il y a eu beaucoup de recherches sur cet effet Mozart par la suite, pour essayer, parce que tout de même, il y a des gens qui étaient adeptes, de comprendre quel pouvait être le phénomène, même s'il était fragile. Et un groupe à Toronto qui a montré qu'en fait, c'est la musique qu'on aime qui va effectivement réveiller ou en tout cas faire plaisir et donc améliorer les scores sur n'importe quoi, en fait, pas rien que sur l'intelligence. Donc oui, il y a quelque chose là. C'est sûr que d'écouter de la musique a des bienfaits, pour reprendre le titre ou à peu près de votre
c'est
livre.
C'est très très important de souligner l'accroche subjective, parce que si on la souligne pas, on est prêt à vouloir démontrer par du mécanisme strictement physiologique, comme on l'a beaucoup fait, y compris dans les expériences animale, où sont les bienfaits de la musique. Alors que si on va chercher le principe actif dans la musique en disant c'est telle gamme qui marche, ou bien c'est tel grain instrumental et ainsi de suite, ben là c'est beaucoup moins probant.
Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre cette discussion autour de la musique et les messages des auditeurs qui arrivent. Il y a déjà des questions sur l'oreille absolue, tiens, justement, ça vous intéresse, Isabelle Perret, puisque vous avez, paraît-il, l'oreille absolue. clairvoyant, c'était Nakane.
La tête au carré.
Les pouvoirs de la musique cet après-midi avec Isabelle Peretz et David Christoffel, avec vos messages sur franceinter.fr. On va parler de l'oreille absolue dans un instant, c'est l'une des premières questions des auditeurs. Un mot quand même, parce que Isabelle Peretz, on disait à quel point justement ces études scientifiques intéressaient évidemment les chercheurs, mais également le grand public. Ça veut dire que finalement la musique aussi a une place tout à fait à part pour Homo sapiens?
Je pense que oui. D'ailleurs, on m'a suggéré hier à l'émission 28 minutes d'utiliser le terme Homo musicus.
Ah oui.
J'ai trouvé ça brillant.
Oui, parce que ça voudrait dire que notre espèce est la seule à être sensible à la musique. Et les vaches avec Mozart dont on parlait tout à l'heure.
Alors, je peux en parler des vaches avec Mozart d'ailleurs. J'ai d'ailleurs une vidéo magnifique où on voit une femme qui traie une vache en chantant une berceuse, comme la même berceuse qu'au bébé.
Oh.
Oui. Alors, en tant que spectateur, vous allez penser qu'elle va donner beaucoup plus de lait. C'est la croyance qu'elle va donner beaucoup plus de lait. Mais la bonne question qu'on devrait se poser en tant que scientifique, c'est sur qui cette musique-là a de l'effet ? Sur celle qui chante ou sur la vache qui est très... Et bon, moi, mon pari, c'est que c'est surtout sur celle qui chante, qui est beaucoup plus apaisée, qui est beaucoup plus dans le mouvement, dans le rythme de sa berceuse, que la vache sensible à la berceuse,
à moins que ce soit toujours la même. Homo musicus, quoi, vraiment.
Alors. Oui, mais je ne dirais pas que c'est spécifique à l'humain. Disons qu'il y a très peu de recherches qui montrent que le singe, notre ancêtre le plus proche, soit en face de la musique, d'abord. Bien sûr, on peut parler des oiseaux, toute la question est de savoir est-ce que c'est entre langage ou c'est musique. On va peut-être pas rentrer dans ces questions philosophiques ici. Donc c'est difficile de se prononcer pour dire que la musique est vraiment spécifique à l'être humain, mais l'être humain a les deux, a le langage et la musique. Et si on a gardé la musique aussi longtemps, c'est que sans doute elle répond à certains besoins.
David Christoffel, dans cet ouvrage au PUF, La musique vous veut du bien, vous revenez aussi sur l'histoire justement de nos rapports avec la musique qui remonte à très loin là aussi.
À très loin, et puis on a très vite aussi testé justement l'efficacité de la musique sur les animaux, avec des scènes parfois rocambolesques au Jardin des Plantes à Paris au début des années 1790. L'orchestre du conservatoire avait testé tout un répertoire sur deux éléphants, et puis en jouant ça ira en ré, les éléphants s'étaient assez excités. Après ils avaient rejoué une autre mélodie, puis après en rejouant ça ira mais une tierce au-dessus, et ben les éléphants s'excitaient plus, et donc c'est le genre d'expérience qu'on n'a jamais répliqué
au 18e. Ça s'est fait
non fin 18e. Enfin,
ouais, donc, au moment de la révolution.
Ouais, c'est ça,
C'était les chants révolutionnaires.
Et c'était aussi le début de la volonté de vérifier l'influence de la musique physiologiquement. C'est là qu'il y a un écrit qui paraît, où tous les médecins aussi prennent en charge la question de la musique et commencent à faire des recherches là-dessus.
Ouais. Est-ce que je peux Isabelle ajouter Peretz, bien ça sûr. M'amuse beaucoup.
Hein. Ben oui, nous aussi.
Je ne peux pas résister. Mais il y a encore des études récentes qui ont été faites chez le rat, par exemple, avec la musique de Mozart ou n'importe. Mais ils ne l'entendent pas. Ils n'entendent pas. Alors ils disent qu'ils répondent, qu'ils sont. Alors c'est sur qui que ça marche cet effet? Parce que
pourquoi ils n'entendent pas? Ils sont pas sourds?
Non, ils entendent les ultrasons.
Oui.
Et dans Mozart, il n'y a pas d'ultrasons.
Oui.
Enfin, pas que je sache.
Oui, mais on a une sorte de pulsion de déduction. Nous, on avait fait une performance artistique avec Bastien Gallet à l'atelier des testeurs il y a 4 ans, où on avait effectivement passé un air de Mozart et proposé à des cobayes de faire l'analyse de deux cochons d'Inde qu'on mettait devant eux, et on leur faisait remplir un questionnaire en disant, après, est-ce qu'il y a eu un effet? Effectivement, quasiment tous essayaient de trouver une corrélation entre ce qu'ils avaient entendu et ce qu'avaient fait les cochons d'Inde, qui, sur les 20 cobayes qu'on avait passés, n'avaient pas eu le même comportement. Voilà.
Là, c'était des vrais cobayes pour le coup. L'oreille absolue, c'est un sujet que les auditeurs aimeraient bien aborder avec vous. On va écouter d'abord un document qui a été diffusé dans le journal de TF1 en 2005.
Parmi ces enfants qui découvrent le solfège, peut se cacher un petit être doué de ce don exceptionnel appelé l'oreille absolue. Une personne sur 10 000 la posséderait. Très simplement, l'oreille absolue, c'est l'aptitude à reconnaître immédiatement une ou plusieurs notes, successives ou simultanées, ainsi que leur tonalité, comme le fait ici ce professeur, lui-même absolutiste.
Fa dièse la do mi bémol. Sol, si bémol, ré bémol. En tant qu'oreille absolue, vous entendez quelque chose et vous pouvez le retranscrire, à condition bien sûr d'avoir les bases de connaissances de la musique.
95% des musiciens ayant ce don auraient commencé la musique entre 5 et 7 ans. Leur cerveau, notamment la partie gauche, appréhenderait la musique comme un langage. C'est pourquoi les langues dites tonales, telles que le chinois, faciliteraient cette faculté. Selon une étude de l'Université de Californie, les Asiatiques auraient 9 fois plus de chances de posséder ce mystérieux don.
Voilà, oh, le mystérieux don, et nous avons une femme mystérieuse à nos côtés, Isabelle Peretz, puisque vous êtes dotée, paraît-il, de l'oreille absolue. Vous êtes donc une absolutiste, pour reprendre le terme de ce reportage. J'ai une question de François qui nous dit, est-ce qu'il serait possible d'avoir une vraie définition, justement, de l'oreille absolue? Et sait-on quel type, voire quelle proportion de la population est concernée? Et c'est un sujet qui fascine. Hein.
Oui, j'ai encore du mal à comprendre pourquoi. À l'époque, disons que, avant qu'il y ait de la recherche vraiment sur ces questions-là, ça fascinait parce que tous les musiciens, même s'ils étaient exposés au code, donc d'associer une hauteur à un nom de note entre l'âge de 5 et 7 ans, en fait, la majorité ne l'acquiert pas, l'oreille absolue. Et tant mieux pour eux, d'ailleurs, parce que ça peut être un handicap.
Ça a été le cas pour vous, hein?
Ah oui, c'est un handicap.
Vous l'avez vécu comme un handicap, hein?
Mais je ne suis pas la seule à le vivre comme un handicap.
Pourquoi alors exactement?
Pourquoi? Parce que c'est une association automatique. Donc vous entendez une hauteur et vous avez un nom de note. Alors ça interfère, je veux dire. Ça, ouais. C'est que vous avez tout le temps ces codes qui servent la plupart du temps à rien. Sauf quand vous devez transcrire ou dans certaines applications très précises. Mm-hmm. Mais c'était considéré comme un don parce que très peu de musiciens l'avaient. Et donc, c'est à tel point qu'ils ne devaient pas avoir de formation en solfège, ils ne devaient pas vraiment peiner sur tous ces cours pour apprendre à écrire parce qu'ils en étaient dispensés à l'université ou dans les conservatoires. Maintenant, les choses ont changé parce qu'on réalise que, effectivement, l'oreille absolue peut être un handicap. Alors, la définition, c'est vraiment ça. C'est cette association qu'on a entre deux choses qui, en principe, sont arbitraires parce qu'on les apprend. Ça aurait pu être d'autres noms que Do, Ré, Mi ou pour ces hauteurs-là. Et en fait, c'est une forme de synesthésie et c'est ça que j'explique dans le livre. Maintenant, on voit vraiment l'oreille absolue comme une forme de synesthésie. Alors, ça renvoie à une autre définition mais qui est similaire, c'est-à-dire deux codes arbitraires. On voit un chiffre et on le voit en couleur. Donc le 4 peut être jaune, le 9 violet et c'est arbitraire, mais évidemment, c'est pas comme la musique où tout le monde apprend ce code, le même code, et alors là, ça paraît vraiment prodigieux, comme vous avez entendu dans le documentaire, où la personne va le faire très très rapidement. Ben oui, c'est automatique.
Et François demandait à notre auditeur si ça concernait beaucoup de personnes dans la population, et le reportage qu'on entendait laissait entendre que certaines populations étaient plus douées que d'autres, et les Asiatiques en particulier.
Oui, alors il y a plusieurs façons d'interpréter. D'abord, ça concerne, mais il faudrait revoir, ça bouge beaucoup les recensions. Il y a beaucoup de recherches sur ce phénomène. Pourquoi ? Il est très facile à étudier. Mais pour revenir à la proportion, moi, j'ai relevé que c'était 10% de la population occidentale.
Occidentale,
caucasienne. Ouais. Chez les Asiatiques, effectivement, ça monte à 50%.
C'est énorme.
Oui, mais ça pourrait ne pas être le fait d'être exposé à une langue à ton, parce que on retrouve cette proportion chez les Japonais et les Coréens qui n'utilisent pas de langue à ton. Les Chinois le font.
Alors, donc, l'explication, c'est quoi?
Apparemment, ils ont un gène différent qui est en association avec les langues à ton, qui serait une variation, de génétique qui serait différente. Donc, ça pourrait être génétique et non associé à cet aspect-là. Mais ce que j'aimerais revenir, c'est au niveau du cerveau. Effectivement, on sait, par exemple, que la synesthésie est associée à une anomalie du cerveau. Et cette anomalie, donc, pourrait très bien caractériser les personnes qui ont l'oreille absolue, qui est que ils ont conservé des connexions, comme moi d'ailleurs, des connexions inutiles, c'est-à-dire des connexions qui normalement devraient être élaguées dans le développement.
Et c'est ça qui fait le handicap au fond.
Oui.
C'est cette connexion qui vient brouiller en permanence.
C'est ça.
Et c'est toujours le cas pour vous?
Non, heureusement. Non. En vieillissant, ça a monté. Je pense que il y a des mécanismes d'inhibition assez forts.
C'est comme une espèce d'acouphène finalement, non? Dès que vous entendez de la musique, une association, ça doit être
Oui, c'est automatique.
Désagréable.
Non, c'est pas désagréable, mais c'est un peu embêtant. Puis moi, je l'avais juste pour mon instrument, donc c'est pas très envahissant. C'était la guitare classique.
Ouais. Alors Yannick nous dit les bienfaits de la musique sont avérés, mais des recherches expliquent-elles pourquoi certaines personnes n'ont aucune appétence pour quelque musique que ce soit, voire même sont agacées. Et ça existe, hein, même si ça peut nous paraître étrange.
Ben, l'oreille absolue aussi existe.
Oui. Il y a des personnes qui n'aiment pas la musique.
Oui. Alors, il y a deux formes. Il y a la forme que moi j'ai étudiée beaucoup, qui s'appelle la musique, que nous avons appelée la musique congénitale, mm-hmm. qui correspond à environ 2% de la population, qui est ces personnes qui ont vraiment une difficulté à apprécier la musique, à la mémoriser, à discriminer les hauteurs ou à discriminer le rythme. Je pourrais revenir là-dessus. Et ils sont nés ainsi. Ouais. Et donc, on les a beaucoup étudiés, parce qu'on les a étudiés au niveau de leur comportement musical, si vous voulez. Mais ce qui est très intéressant, c'est que comme en médecine, ça nous révèle un peu quelle est la machine derrière, où ça s'est passé, c'est-à-dire quels sont les mécanismes qui sont perturbés. Et on est arrivé à le mettre en relation avec des anomalies au niveau du cerveau, c'est-à-dire un circuit entre le cortex auditif droit et le lobe frontal ou le cortex frontal inférieur droit qui serait appauvri, si vous voulez. C'est pas qu'il n'est pas là, mais appauvri. Et aussi, on pense que c'est génétique, donc c'est héréditaire. 50% des familles en sont affectées. Ouais. Donc c'est tout ce tableau-là qui est intéressant pour nous, bien sûr. Pas des personnes qui en sont affectées, mais c'est pas la seule forme.
Ouais,
mais il y a des gens qui perçoivent tout très bien et qui n'aiment pas la musique.
Ouais, mais ça veut dire qu'il y a des gènes de la musique, on peut aller jusque-là ou pas ?
Oui. Ouais. Oui. Ah, ouais. Oui, on peut aller jusque-là. Oui.
Ouais. David Christoffel, ce qui est intéressant finalement dans ces discussions avec l'oreille absolue aussi, c'est de voir que souvent le cerveau des musiciens est associé comme étant tout à fait particulier, en tout cas. On le perçoit comme étant un peu différent de celui du commun des mortels.
Pour le meilleur et pour le pire du reste. Ouais. Parce que au début du XXe siècle, il y avait certains psychanalystes qui soutenaient que les génies symphonistes pouvaient être soumis à davantage de troubles psychiques que les autres, parce que l'activité de la composition créait un dynamisme intellectuel ou un dynamisme cérébral qui était peut-être un peu excédentaire, et par conséquent ils se retrouvaient à avoir trop d'idées à la fois pour pouvoir bien les digérer, et donc se retrouver avec quelques neurasthénies bien particulières.
Mais ce sont des gens qui souffrent aussi, les musiciens, parce que l'entraînement de la musique est aussi une discipline très très difficile quand même.
Elle peut même être très sportive, et du reste on a des cas tragiques comme le fameux Robert Schumann qui était parti dans cette vogue qui avait au début du 19e siècle d'outiller sa main pour pouvoir muscler les doigts à égalité de force, au point qu'il avait créé lui-même une espèce de système de poulie avec l'un de ses annulaires, et puis ça lui avait pété le doigt, et après il pouvait être beaucoup beaucoup moins virtuose. Et d'ailleurs, dans ses compositions, on peut vérifier qu'il y a un avant et un après l'accident
terrifiant en tout cas. Isabelle Peretz.
Il y a effectivement ce qu'on appelle la dystonie, qui n'est pas du tout mécanique, dans le sens où c'est même pas l'intervention fantaisiste d'un musicien pour améliorer sa performance, c'est le fait qu'il joue tellement. Mais de nouveau, il y aurait un terrain neurogénétique qui fait que tout à coup, il y a un doigt qui fonctionne plus. Et l'explication neurologique serait que le territoire de ce doigt a envahi le territoire de l'autre doigt.
Mais ce qui semble y avoir quand même au bout de notre discussion, c'est qu'il y aurait potentiellement des répertoires plus ou moins bons pour la santé. Et en vous écoutant par exemple sur l'oreille absolue, je me suis toujours posé la question, est-ce que l'oreille absolue est réglée sur un diapason ? Parce qu'il y a beaucoup d'écrits en musicothérapie qui disent qu'il faut mettre le diapason à 432, qui est un diapason qu'on pratique assez peu maintenant, on est entre 440 et 442, et j'ai plus ou moins le sentiment que les gens qui ont l'oreille absolue l'ont réglé sur un certain diapason, ce qui est assez étrange, puisque tout le monde convient que le diapason n'est qu'une convention.
Réponse très courte, Isabelle Peretz, si vous l'avez d'ailleurs, cette réponse au diapason. Vous voulez réfléchir ? Tiens, on va écouter Gérald de Palmas et vous donnerez la réponse à David Christoffel dans un instant. Si vous l'avez, je vous vois réfléchir.
C'est pas facile d'y répondre parce que...
On verra ça dans un instant. Ouais. Allez, on se retrouve. Mm-hmm.
J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais chacun de mes parents. Erreur fatale, bien le temps des regrets. Je me noie dans un verre de larmes. J'étais sur la route toute la fin de journée. Je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la fin de journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. J'ai fait mon malheur. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. Car j'étais sur la route toute la sainte.
Et en 1994, sur la route Gérald de Palma sur France Inter.
La tête au carré sur France Inter.
Puis-je vous demander une dernière leçon ?
La musique, simplement là pour parler de ce dont la parole ne peut parler. Vous avez découvert qu'elle n'est pas pour le roi.
J'ai découvert qu'elle était pour Dieu.
Vous vous êtes trompé, car Dieu parle.
Pour l'oreille ?
Ce dont je ne peux parler n'est pas pour l'oreille, monsieur.
Silence.
Le silence n'est que le contraire du langage.
L'amour ?
Non.
Le regret de l'amour ?
Non.
Je ne sais plus, monsieur. Un petit abreuvoir pour ce que le langage a déserté, pour l'ombre des enfants, pour les états qui précèdent l'enfance, quand on était sans souffle, mais sans lumière.
Voilà, tous les matins du monde, la voix de Gérard Depardieu et celle de Jean-Pierre Mariel pour notre sujet sur les pouvoirs de la musique, hein, justement cet après-midi avec mes invités Isabelle Peretz autour de cet ouvrage « Apprendre la musique », ce sont des nouvelles des neurosciences chez Odile Jacob et puis David Christoffel « La musique vous veut du bien » aux presses universitaires de France. Alors David, tout à l'heure vous aviez une question pour Isabelle Peretz sur le lien entre l'oreille absolue et les diapasons.
Et le diapason, ouais. Parce qu'il y a des oppositions sur les hauteurs de diapason entre 440 et bon, 432
débat de spécialiste, David Christoffel. Ouais.
Selon la hauteur du la, est-ce que l'oreille absolue reconnaît le la ? Voilà, c'est ça la question.
Alors, réponse, Isabelle Peretz.
Ma réponse, c'est ça dépend à quoi vous avez été exposé. Alors, si c'est 440, comme c'est la plupart du temps le cas quand on apprend le solfège, ça va être le 440. Mais il y a sûrement une fenêtre qui s'ajuste un peu comme les chiffres. Si vous les voyez le 4 en jaune, ben, qu'il soit écrit à la main ou écrit de façon dactylographiée, ben, il sera en jaune.
Donc c'est une oreille absolue relative à sa propre
éducation.
Si vous
voulez, en un sens, oui. En un sens, oui. Plus abstraite, disons.
Ouais. Un autre message d'Olivier, d'ailleurs, sur l'oreille absolue. J'ai moi-même l'oreille absolue, dit-il. Utile dans mon métier de musicien, mais véritable enfer au quotidien pour écouter de la musique pour le plaisir. Le nom des notes qui défilent sans y penser. Les sons de la vie quotidienne deviennent des noms de notes. Hein. Voilà un témoignage. Un autre message de Jacques qui nous dit « Le beau-frère de Pierre Boulez, charmant monsieur, docteur me semble-t-il, disait ne strict rien entendre ni ressentir à la musique, quelle qu'elle fût. Est-ce qu'on appelle bien cela la musique, Isabelle Peretz ?
Exact. Et il y en a des très connus, hein, comme Che Guevara, Milton aussi, qui a un prix Nobel. Mm-hmm. Et ces gens-là l'ont écrit, en fait, qui n'entendaient rien à la musique. Même Darwin, apparemment, avait un petit problème, oui. Ouais. Oui. Mais en ce temps-là, on reconnaissait pas, même si eux pouvaient se permettre en fin de carrière d'avouer ce manque en fait. Mais monsieur et madame tout le monde, c'est un handicap. En fait, ils l'avouent pas facilement parce que ils sont perçus, et ça en dit long sur les pouvoirs de la musique, comme personne insensible.
Ben c'est ça, justement. Si on arrive sur le terrain des émotions, David Christoffel, c'est compliqué d'avouer ne pas être sensible à la musique aujourd'hui, tellement elle nous touche la plupart du temps.
Darwin a dû essayer de sublimer, parce que je crois qu'il allait jouer du basson aux plantes pour voir quel effet ça leur faisait, puis il avait conclu finalement que c'était quand même un peu idiot de tenter ça.
Ouais. Henri nous dit sur franceinter.fr, en ce qui me concerne, la musique blanche calme mes acouphènes et je peux enfin me détendre et dormir quelques heures. C'est quoi la musique blanche, Isabelle Perrette, s'il vous plaît?
Je pense pas que ce soit de la musique, je
c'est
pense que c'est un bruit. Non, c'est un bruit qui a de l'énergie sur toutes les fréquences. Donc si votre acouphène, donc c'est un son que votre oreille produit, en fait c'est votre cerveau, produit, et évidemment va pouvoir être couvert par ce bruit blanc, parce que c'est très personnel à quelle hauteur va être cet acouphène. Et donc on peut imaginer qu'un bruit blanc va interférer, si vous voulez, avec la fréquence, et donc pouvoir... Mais c'est pas rien que les acouphènes, il y a plusieurs personnes qui ont aussi des hallucinations musicales, ou qui ont cette sorte de... qui vont bénéficier de bruit blanc pour dormir,
On sait ce qui se passe dans le cerveau justement autour des acouphènes, on connaît bien le mécanisme ou pas?
C'est fort étudié, très discuté. Ouais. On avait des explications très simples en termes de... membres fantômes, c'est-à-dire que si vous êtes sourd et surtout dans les fréquences aiguës, eh bien votre système nerveux continue à répondre tout seul, se stimule, s'auto-stimule si vous voulez. Et donc ça crée ce qu'on entend comme son aigu. Apparemment c'est un peu plus complexe, mais disons que l'explication reste relativement intéressante.
Jacques nous dit, j'ai travaillé une vingtaine d'années dans la musique classique, j'adore, je continue d'ailleurs, mais impossible de faire ces deux choses en même temps, travailler et écouter de la musique en même temps. Et vous le confirmez ?
Ça rencontre plus mon livre. Bon, vous avez abordé plus les aspects bien faits. Moi, j'aborde plus comment apprendre la musique. Un aspect qu'on n'a pas encore, d'ailleurs. J'aimerais le soulever. C'est plus important d'en faire que d'en écouter. Pour tous les bienfaits intellectuels, sociaux qu'on peut avoir du fait de participer activement à la musique. Mais pour revenir, excusez-moi, là, j'ai
travailler et écouter de la musique en même temps.
Et un aspect qu'on oublie, et surtout actuellement avec le multitâche, c'est le fait que on peut pas faire deux choses en même temps.
Notre cerveau, il accepte pas ça?
Non. On fait très rapidement. Alors, plus on est jeune, plus on fait ce genre de switch.
Multitâche.
En bon français, multitâche, très rapidement. Donc, effectivement, travailler en même temps qu'on écoute de la musique, c'est extrêmement difficile. Parce qu'il faut alterner sans arrêt. Mais il y en a qui l'utilisent, donc et c'est une inquiétude des parents, c'est de voir qu'ils mettent de la musique, les jeunes mettent de la musique très très fort pour, en étudiant. Et c'est un champ fort étudié, et la réponse n'est pas blanc ou noir. C'est-à-dire que la musique peut effectivement apaiser, et donc aider la personne à inhiber tout le reste et à se centrer sur l'activité. Mais c'est très variable d'une personne à l'autre,
absolument,
très variable d'un âge à l'autre, très variable des goûts personnels par rapport à la musique qui convient. Et donc, c'est à doser vraiment personnellement. Donc, il n'y a pas de recette, si vous voulez.
Ouais. Docteur Christoffel, est-ce que vous nous conseillez l'opéra, l'art lyrique comme traitement pour guérir certains maux ou pas, comme ça a été fait à certaines époques
pour se libérer, effectivement, c'est vrai que l'opéra est... on pense à Stendhal qui voulait faire une espèce de dictionnaire des émotions. On aurait pu répertorier tous les airs de Rossini et puis prendre tel ou tel en fonction des émotions qu'on voulait générer. Donc, et puis, il y a quand même la puissance spécifique de la voix. D'ailleurs, j'étais très intéressé dans le livre d'Isabelle Peretz par la notion de générosité vocale, le fait qu'on est beaucoup plus tolérant ou beaucoup plus aveugle devant quelqu'un qui chante faux que devant quelqu'un qui joue faux d'un instrument. Donc c'est dire si la fascination vocale est quand même peut-être plus forte que ne peut l'être potentiellement la fascination instrumentale.
Merci à tous les deux, on aurait aimé continuer beaucoup plus longtemps cette discussion. Isabelle Peretz, on prolonge en lisant votre livre « Apprendre la musique » chez Odile Jacob. Ce sont des nouvelles des neurosciences. Et puis David Christoffel, « La musique qui vous veut du bien » aux Presses universitaires de France. Merci beaucoup à tous les deux.